projecteurs ce matin sur la civilisation phénicienne. La Phénicie, comme on l'a dit, c'est le Liban actuel avec quelques kilomètres en plus au nord et au sud. Nous allons donc parler du peuple phénicien, un peuple de navigateurs et de marchands qui ont développé les échanges avec tous les pays du pourtour méditerranéen. Et puis, je rappelle que quand même, on leur doit la diffusion et la création de l'alphabet. Votre invité Jacques Pradel est un avocat et écrivain libanais, Alexandre Najjar. On lui doit des romans historiques et des biographies.
Oui, bonjour Alexandre Najjar.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes quelques jours à Paris pour le lancement de votre livre qui vient de paraître aux éditions Plomb. C'est un roman, mais oui. C'est un roman à clé, on peut le dire également.
Hein, tout à fait.
Qui s'intitule tout simplement Phénicia. On va parler, comme vient de le dire Julie, bien sûr, beaucoup de cette civilisation phénicienne à qui nos civilisations doivent tant. Et au-delà de l'alphabet, on en parlera beaucoup ensemble. On leur attribue la naissance de grandes villes dont les noms sont évidemment toujours très connus, comme Carthage, comme Byblos, comme Tyr, qui se trouve au Liban actuel. Byblos également.
Tout à fait.
Et c'est pour ça que quand on lit l'histoire de ce peuple phénicien qui prend les armes pour défendre sa liberté contre un envahisseur venu de l'extérieur, on se dit, tiens, est-ce que tous les personnages et toutes les situations qui sont dans ce livre sont purement imaginaires?
C'est vrai.
Comment avez-vous décidé d'écrire ce livre? C'est en pensant au Liban ou c'est d'abord par une fascination pour ces fameux phéniciens?
En fait, les deux. D'abord, puisque je vis au Liban, donc je baigne dans cette atmosphère. Donc chaque fois que je vais dans un site archéologique avec des amis ou avec ma famille, je suis toujours impressionné de voir la richesse extraordinaire de cette civilisation phénicienne qui est malheureusement assez méconnue en Occident. C'est vrai que maintenant, beaucoup de travaux archéologiques commencent à mettre en avant cette richesse.
Ouais.
Et donc j'ai voulu, à travers un roman qui est peut-être à ma connaissance le seul roman historique sur les Phéniciens. Bon, il y a eu beaucoup de très beaux livres sur Carthage, dont le fameux Salammbô de Flaubert.
Ouais.
Mais sur les Phéniciens eux-mêmes, je crois que c'est l'un des rares, disons, sur ce sujet.
Ouais.
Donc j'ai voulu rendre hommage à cette civilisation extraordinaire et raconter en même temps le siège de Tyr, qui constitue un tournant dans l'histoire de l'humanité, puisque le déclin de la Phénicie coïncide avec la chute de la ville de Tyr, donc en 332 avant Jésus-Christ, lorsqu'Alexandre le Grand va décider donc de conquérir cette ville.
Oui, parce que c'était une étape pour lui pour la conquête du monde. Hein,
tout à fait, parce qu'il venait justement de vaincre Darius à Issos, lors de la bataille d'Issos.
Les Perses, non?
Voilà, les Perses. Et c'était une bataille extraordinaire où Alexandre le Grand a fait preuve d'une stratégie, d'un courage extraordinaire. Mm-hmm. Malheureusement, il n'a pas pu capturer Darius qui, à la dernière minute, enfin, il y a eu une course-poursuite digne des plus grands films d'action.
Ça fait partie
je raconte dans
très belle page de votre livre. Oui.
Et donc, il n'arrive pas
à le capturer.
Ouais. En revanche, il va pouvoir capturer la mère, la femme et les enfants de Darius. Mmh. Et là, il va faire preuve d'une grande clémence, puisqu'il va dire à la mère de Darius que je vous considérerai comme ma propre mère.
Oui.
Et cette clémence, on le verra tout à l'heure, ne va pas être une règle chez Alexandre, puisque lors de la chute de Tyr, il ne va pas faire preuve donc de vraiment...
Ça a été un massacre épouvantable, il faut le dire. Mais on reviendra sur ces moments-là, qui sont des moments très forts, bien sûr, parce que Darius envoie une lettre, en tout cas un message, gravé au calame.
Voilà.
Bon, il faut se remettre avec les instruments de l'époque pour lui dire qu'il est prêt à payer une rançon pour récupérer sa mère, sa femme, ses enfants.
Et Alexandre le Grand, en fait, était toujours gêné par l'arrogance de Darius. Et il ne comprenait pas que Darius ne se comporte pas à son égard comme s'il était un roi.
Darius ne reconnaissait pas le pouvoir d'Alexandre.
Tout à fait. Donc Alexandre, là, après avoir vaincu Darius, donc à Issos, va se dire, ma prochaine étape sera l'Égypte, mais sur la route de l'Égypte, il y a la côte phénicienne, donc il y a des ports phéniciens qui servaient de base à la flotte de Darius, qui était une flotte très puissante.
C'est ça, parce que les phéniciens qui étaient avant tout des commerçants, mais qui étaient surtout des navigateurs, et on verra ensemble tout à l'heure, on peut valablement maintenant se poser la question de savoir s'ils n'ont pas découvert l'Amérique avant tout le monde. Alexandre a peur, et là on est dans la géopolitique de l'époque, il veut assurer ses bases arrière parce que ces phéniciens louent leurs services pour les marines d'un certain nombre de pays.
Tout à fait. Ouais. Et là, il va se dire, donc, pour dans ma route sur l'Égypte, vers l'Égypte, mm-hmm. je vais assurer mes bases et essayer donc de conquérir ces villes, donc Byblos, Sidon, et puis ouais. Tyr. Mm-hmm. Ensuite, il y aura Gaza. Et donc, il va se dire, dès l'instant où je pourrais faire, enfin, où, dès l'instant où mes troupes vont pénétrer dans ces ports-là, mm-hmm. je pourrais être sûr que Darius ne pourra plus s'approvisionner, se ravitailler dans ces ports. Ouais. Donc, je serai tranquille, mes arrières seront tranquilles, mm-hmm. tant lorsque j'irai en Égypte que lorsque j'irai plus à l'est, ouais. vers l'Extrême-Orient. Ouais. Et là, Byblos va ouvrir ses portes à Alexandre parce qu'elle sent que c'est une armée beaucoup plus
trop puissante,
surtout que comme vous l'avez dit, les Phéniciens étaient finalement des navigateurs, des commerçants, mais ce n'étaient pas des guerriers. Donc c'était des gens inoffensifs qui peut-être les seules batailles qu'ils livraient, c'était contre les pirates qui essayaient de les suivre ou de leur prendre leurs marchandises en mer. Ouais. Donc sinon. C'est pareil. Sidon va se rappeler les massacres qu'elle a subis autrefois lorsque leur peuple s'est révolté et va se dire...
Sidon, c'est Saïda actuellement, c'est Saïda actuel,
au Liban. Mmh. Également. Donc elle va dire aussi, on va déclarer cette ville ouverte. Et donc Alexandre va y entrer. Et là, il y a une anecdote, un épisode assez amusant, c'est qu'Alexandre le Grand va dire, je vais... destituer le roi précédent, enfin le roi qui existait parce qu'il était très proche de Darius, et je vais nommer à sa place un nouveau roi.
Voilà. Et alors là, ça c'est du grand spectacle, c'est du pain béni pour un auteur, voilà. Faut bien le dire, parce qu'en fait personne n'arrive à s'entendre sur le nom d'un roi. Alors ça rappelle aussi un peu le Liban. Vous n'avez pas de président toujours?
Non, toujours pas de président. Donc à l'époque, oui. Et toujours pas de roi pour Saïda, oui. pour Sidon.
Et on va et choisir là, quelqu'un.
Il va choisir. Il va dire qui on a comme qui aurait un sang royal dans les veines. Ils lui disent, il y a un jardinier qui travaille sur une colline tranquillement. Et donc, Alexandre va le voir et le voit en train de travailler, de labourer son champ.
Habillé en haillons.
En haillons, complètement.
Ah, c'est presque un SDF de la campagne.
Hein, ouais. Et donc, il va lui dire, moi, je t'offre le trône de Sidon. Et l'autre, évidemment, tombe des nues. Il croit à une blague. Il regarde autour de lui. Et il voit effectivement qu'il y a toute une escorte. Il y a les insignes royaux. Et à ce moment-là, donc, quelqu'un s'avance donc de la troupe d'Alexandre et lui remet les insignes et la tunique royale. Ouais. Et Alexandre, donc, a cette phrase extraordinaire. Il lui dit, comment tu as subi cette pauvreté, cette misère? Il a dit, je l'ai subi avec beaucoup de calme puisque je n'avais besoin de rien. Et donc, je ne demandais rien à personne. Ouais. Et cette phrase va conforter Alexandre dans sa... Enfin, va se dire que c'est quand même un type extraordinaire qui ne s'est jamais plaint, etc. Et il va demander donc à ses hommes de lui donner une partie du butin qu'il avait
accumulé. Au cours des autres.
Et voilà, en sorte de récompense à cette personne qui était comme ça, en même temps digne, et qui ne demandait rien à personne. Ouais. Et donc là, arrive le tour de Tyr, et c'est là où il va se rendre compte que ce ne sera pas une partie facile.
Voilà, parce que Tyr ne va pas vouloir ouvrir la ville à Alexandre, et les Phéniciens vont se révolter. Ça donnera lieu à une bataille qui, comme vous l'avez rappelé il y a quelques instants, est une borne dans l'histoire, puisque ça marque vraiment un changement historique très important. Alors voilà, donc on va parler de la Phénicie, des Phéniciens, de ce siège de Tyr. On va forcément parler un moment du Liban actuel. On va essayer de voir avec vous également, Alexandre Najjar, d'où viennent les informations sur lesquelles vous êtes basé pour écrire ce roman, parce que il n'y a pas de traces écrites vraiment très importantes. Les Phéniciens n'ont pas laissé une histoire très abondante, pas de récit de l'époque.
Ils ont inventé l'alphabet. Quoi.
Alors, ils ont inventé l'alphabet, oui, mais non, c'est une décrit. Sacrée contradiction quand même. Hein. Bon. Mais heureusement, il y a les archéologues, on va en parler. D'ailleurs, la semaine dernière, c'est arrêté à Paris une exposition qui se tenait depuis le début du mois de novembre à l'Institut du Monde Arabe, la Méditerranée des Phéniciens de Tyr à Carthage, que évidemment vous êtes allé voir. Hein. Oui. Et puis on aura Éric Delpont qui est le commissaire donc de cette exposition à l'Institut du Monde Arabe pour parler des découvertes archéologiques et j'allais dire aussi des qualités artistiques très importantes de ces Phéniciens. Voilà, vous savez tout. C'est de cela dont on parle ce matin sur Europe 1, 01 42 32 15 15 pour vos questions, vos réactions ou vos témoignages. Europe1.fr si vous êtes sur Internet et on se retrouve dans deux minutes.
parler de la Phénicie, nous recevons Alexandre Najar, qui est l'auteur d'un livre qui vient de sortir chez Plon, un livre intitulé Phénicia. Jacques Pradel.
Oui, j'ai pas dit tout à l'heure, il faut pour compléter le portrait de mon invité, si vous me permettez, dire que vous êtes aussi responsable du supplément L'Orient littéraire, hein, qui est un journal très lu et très au Moyen-Orient, donc vous intéressez beaucoup à la littérature, d'une manière générale, mais aussi aux romans historiques, puisque vous avez écrit un certain nombre de romans déjà dans le passé. Oui. Bon, et puis vous avez fait le roman de Beyrouth, vous avez écrit un livre sur Khalil Gibran.
Oui, une biographie. Et puis il y a eu les œuvres complètes aussi que j'ai, enfin, dont j'ai fait l'introduction.
Oui, oh, moi j'ai dit Khalil Gibran, oui, excusez-moi, je l'ai francisé, on dit Khalil Gibran. Bien
oui,
sûr. Bon,
ça.
Voilà, merci. Alors, on revient à Phénicia. D'abord, dans l'ordre, revenons sur vos sources. Donc, oui. Le grand historien de l'Antiquité, Pline, a parlé des Phéniciens, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme autre source? Il y a peu de choses.
Enfin, il y a des historiens de l'époque qui en ont parlé, mais c'est souvent en des termes pas très reluisants, en ce sens que on les considérait par exemple comme, enfin on disait souvent que c'était des navigateurs fripons, des commerçants sans foi ni loi et je pense que c'était une vision réductrice que les Grecs par la suite ont beaucoup véhiculé aussi, parce que ce qu'il faut savoir c'est que lorsque les cités phéniciennes ont été hellénisées, il y a eu tout un travail d'effacement de la mémoire phénicienne.
C'était la règle
tout à fait, de sorte que enfin non seulement il y a eu une récupération de certaines découvertes phéniciennes, mais aussi un effacement total. On occultait sciemment les mérites des Phéniciens, et ce n'est que bien plus tard, notamment avec le concours de gens comme Ernest Renan, qui a fait une mission en Phénicie qui a beaucoup apporté, avec les archéologues contemporains, qu'on redécouvre cette civilisation extraordinaire et qu'on lui rend, enfin ce qu'on rend à César ce qui appartient à César, parce que le problème c'est que très longtemps, et donc pour les sources, c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont inventé l'alphabet, mais en même temps, ils ont laissé peu d'écrits. Mmh. À mon sens, cela s'explique par deux facteurs. Le premier, c'est effectivement le fait que, donc, après l'occupation par Alexandre, les Grecs ont voulu helléniser donc tout cela. Mmh. Et d'autre part, c'est que la région côtière libanaise est très humide. Ouais. Et tout ce qui a pu exister comme papyrus, comme parchemin à l'époque, ont été certainement détruits et n'ont pas survécu à l'humidité, contrairement aux documents qui se trouvaient en Terre Sainte ou en Égypte, tout ça, qui ont certainement, dans un climat beaucoup plus sec, qui ont été admirablement conservés. Ouais. Et là, je pense que, finalement, les seules sources dont nous disposons, ce sont ce qui est gravé
Les fouilles archéologiques.
Et aussi au niveau des écrits.
Les monnaies.
Oui, les monnaies, ce qui est gravé sur les sarcophages, comme le fameux sarcophage d'Ahiram qui se trouve au musée de Beyrouth, mais aussi sur des stèles, sur des flèches aussi. On a retrouvé des flèches où ils écrivaient leur nom sur ces flèches. Et donc, à partir de là qu'on a pu reconstituer, d'une part, l'alphabet phénicien, et d'autre part, qu'on a pu retrouver reconstituer certaines choses. Mais ce qui est certain, c'est que sur la vie sociale des Phéniciens, il y a pas mal de lacunes. Et c'est là où c'était intéressant pour un romancier de traiter la question sous une forme romanesque, parce que là où il y avait des trous de l'histoire, c'était l'imagination du romancier qui prenait le relais. Et comme le dit l'un de mes personnages, donc Zénon, qui était un philosophe, le fondateur du stoïcisme, qui était d'origine phénicienne.
Et c'est lui qui va raconter sa vie à un personnage, mais ça on y vient dans un instant.
Voilà. Il dit que l'imagination est aussi source de savoir. Ouais. Et je trouve que l'une des forces donc du romancier en général, c'est de pouvoir aussi combler ces lacunes de l'histoire à travers son imagination. Ouais. En revanche, sur Alexandre le Grand, il y a une quantité extraordinaire de sources, notamment sur l'armée d'Alexandre, sur la personnalité, etc. Donc il y avait vraiment un contraste saisissant entre le manque de sources sur les Phéniciens, à part ce que les archéologues ont découvert, donc des temples, des vestiges qui existaient, et puis l'abondance de sources sur Alexandre le Grand.
Mais est-ce que l'histoire racontée par les vainqueurs dit toujours la vérité? Certainement pas.
Voilà.
Alors voilà. Bon. Alors, vous savez ça. Et alors, il faut ajouter, avant de faire une nouvelle pause, que évidemment, Xénon, dont vous venez de parler, c'est lui qui va raconter, d'une certaine manière, à une jeune femme, l'Odyssée,
voilà.
Si j'ose
donc,
dire.
Zénon, qui était donc le fondateur de l'école du stoïcisme, a longtemps, donc, vers l'âge de 15 ans, il a échoué, parce que son navire avait fait naufrage, s'est retrouvé à Athènes. Mmh. C'est là qu'il a appris la philosophie et qu'il s'est mis à enseigner, donc, cette doctrine qui est devenue le stoïcisme, cette philosophie. Ouais. Mais le problème, c'est que on a voulu, donc les Athéniens ont voulu le récupérer, ont voulu lui offrir, enfin le déclarer citoyen d'Athènes, ouais. Et lui a toujours refusé, ouais. En disant je suis phénicien et je le reste. Mmh. Et lorsqu'il est mort, tous les vers, les poèmes qui ont été écrits par les poètes à sa gloire ont tous souligné son origine phénicienne. Ouais. Donc c'est lui, donc au départ du livre, qui raconte cette histoire, qui est écrite donc selon deux versions.
Voilà le point de vue du conquérant, voilà. Point de vue d'Alexandre, et le point de vue de ceux qui vont se défendre, c'est-à-dire le point de vue des Phéniciens. Et voilà. Tout ça à travers un personnage très important dans votre livre, qui est une femme. Oui. Et là aussi, on ne peut pas s'empêcher de faire des correspondances entre la place de cette femme au Moyen-Orient à l'époque.
Hein,
rappelons-le quand même, entre 1500 et 300 avant notre ère, et puis aujourd'hui. Alors, on parle de tout ça ensemble dans un tout petit instant. Oui. Donc, nous parlons de Phéniciens, le roman d'Alexandre Najar.
Une matinée en Phénicie.
Jacques, voilà, et c'est absolument passionnant, pas seulement à cause, Julie, des correspondances entre l'histoire que raconte Alexandre Najar et aujourd'hui, mais simplement parce que c'est un roman, d'abord avec un R majuscule, et que ce qu'il raconte est passionnant. On sait que la source, elle est historique, que vous avez inventé un certain nombre de situations, en tout cas des dialogues, puisque là, comme vous l'avez dit, il ne nous reste rien. Alors, on reprend simplement le début de votre livre, ce fameux Xénon dont vous venez de parler, qui a toujours tenu à marquer son origine ses origines phéniciennes, raconte à son disciple Apollonios l'histoire de sa propre mère, la mère de Xénon, qui s'appelle Elissa. Et c'est cette femme qui a vécu toute cette odyssée malheureuse, on va dire, de la révolte de Tyr contre les armées d'Alexandre. Elle a vécu elle-même la prise de Tyr, la chute de Tyr dans des circonstances extrêmement violentes, qui rappellent malheureusement aussi encore d'autres circonstances dramatiques vécues sur ce petit coin, en fait, du Moyen-Orient, qui s'appelle aujourd'hui le Liban. Mais il faut quand même dire aussi que les Phéniciens sont allés bien plus loin que les côtes du Liban. On les retrouve sur toutes les côtes d'Afrique du Nord, en fait, jusqu'en Irlande. Hein.
Oui, c'est vrai. Dans le livre, dans la première partie du livre, d'ailleurs, Elissa accompagne son oncle dans un périple autour du bassin méditerranéen. Mmh. Elle se retrouve donc à Nora, en Sardaigne, donc qui était l'un des comptoirs phéniciens. Oui. Ensuite à Carthage. Mmh. C'est vrai que, comme vous l'avez très bien dit, c'est que les Phéniciens ont fondé des comptoirs un peu partout sur la côte méditerranéenne. Même Marseille, donc, a été approchée par les Phéniciens. Mogador. Et ils sont arrivés, en fait, ce qu'on appelait au-delà donc du détroit de Gibraltar. Ouais, et certaines sources confirment.
Fameuse pilier d'Hercule.
Voilà, tout à fait. Mmh. Et donc, les sources montrent que ils ont très bien pu arriver, longer la côte africaine. Mmh. Et certains historiens vont même plus loin, en se fondant sur des correspondances troublantes entre certains objets trouvés en Amérique et les objets donc tels que confectionnés par les Phéniciens. Certains pensent que les Phéniciens seraient allés jusqu'en Amérique, ce qui reste à prouver. Bon, dans mon livre, je n'appuie pas cette thèse, je la laisse aux historiens. Ouais. Mais ce qui est certain, d'ailleurs, il y a une essayiste allemande qui avait écrit un livre qui s'appelait Sorry Columbus. Donc, excusez-moi, Christophe Colomb, pour dire que que les Phéniciens sont arrivés avant vous. Bon, au Liban, on se méfie des fois de cette tendance un peu chauvine, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Liban, pendant longtemps, surtout au début du XXe siècle, il y a eu tout un mouvement qui s'appelait le libanisme phénicien, qui essayait de montrer que le Liban n'était pas un pays arabe, mais était un pays qui descendait directement des Phéniciens. Mmh. Et les défenseurs de cette thèse, dont un poète très connu qui s'appelait Charles Corme, dont je cite un poème en exergue, est allé quelquefois trop loin, si vous voulez, dans la récupération de la civilisation phénicienne. Mmh. Et en réalité, je pense que l'erreur a été de confondre race phénicienne, c'est-à-dire de considérer qu'il y a une race phénicienne, mm-hmm. Et l'histoire très riche de la Phénicie.
L'histoire de la Phénicie, c'est certainement l'histoire d'un immense métissage aussi.
Bien sûr, tout à fait.
Par la force des choses.
Voilà, ouais. Et aujourd'hui, je veux dire, le Liban est quand même dans... C'est vrai qu'il y a une spécificité libanaise qui fait qu'il est... qui a été un formidable trait d'union entre Orient et Occident, oui. Mais c'est quand même un pays qui vit dans une région arabe dont il ne peut pas non plus se couper.
C'est là où, si vous voulez, la
théorie un peu exagérée ou abusive, donc de phénicianiser, si j'ose dire, le Liban, doit être étudiée avec un peu de prudence.
Oui, mais d'un autre côté, les capacités commerciales, on va dire, des Libanais qui sont plus approuvées, puisqu'on trouve des commerçants libanais dans le monde entier, dans toute l'Afrique également, et sur d'autres continents.
C'est vrai qu'il y a cette tradition, effectivement. Mais dans mon livre, j'essaie aussi de montrer qu'il n'y avait pas que ça. Et heureusement, d'ailleurs, il y avait des gens érudits, il y avait des philosophes, des penseurs, des artisans qui faisaient des objets extraordinaires dont on retrouve encore des traces. Ouais. Donc aussi, j'ai voulu combattre ce cliché que certains ont voulu véhiculer en disant que c'était des commerçants fripons.
Ce n'était pas que cela. Alors, il faut aussi dire une chose pour la compréhension de ceux qui ne seraient pas intéressés forcément depuis quelque temps à l'histoire très ancienne et à l'histoire des Phéniciens. Il faut dire qu'il ne faut pas réagir en termes de pays, même si on parle des Perses, même si on parle... peut-être que l'Égypte, par contre, c'est à ce moment-là une exception. Là, l'exception confirme la règle. Mmh. À l'époque, ce sont souvent des cités qui ont leur...
Leur roi, et qui sont souvent indépendantes les unes des autres, mais qui, quelquefois, donc font des sortes d'alliances lorsque leurs intérêts concordent. Mais ce que vous avez tout à fait raison de souligner, que c'était souvent des cités indépendantes. Donc Tyr, en l'occurrence, Tyr jouissait d'une aura extraordinaire à l'époque, au niveau commercial, au niveau du murex aussi. Il y avait ce fameux coquillage qui s'appelait le murex, dont on teintait, qui faisait la couleur pourpre. Dont ils teintaient les tuniques. Ouais. Et c'était les tuniques qui avaient cette couleur étaient vendues à un prix très élevé qu'il fallait un nombre très important de coquillages pour pouvoir le teindre. Ouais. Et cela a fait aussi la réputation de Tyr et aussi le commerce, puisque Tyr commerçait non seulement avec l'Égypte, mais aussi avec le roi de Salomon. Ouais. Et c'est ce qui est étrange aujourd'hui de voir comment des pays comme Israël et le Liban sont en conflit quasi permanent, alors que à l'époque, dans l'Antiquité, c'était un commerce tout à fait convivial, et que le temple de Salomon a été construit en partie avec des cèdres du Liban et le concours d'artisans de Tyr.
Alors on verra tout à l'heure, parce que le personnage de Elissa est très important, et est-ce que il est compatible avec les données historiques, cette liberté de cette femme qui décide de voyager, qui va être celle qui va finalement nous faire revivre tout ça. Question donc à suivre dans l'émission avec donc Alexandre Najar. On se retrouve tout de suite après les informations.
Sait-on des Phéniciens aujourd'hui? Qu'ils sont des navigateurs intrépides et des artisans habiles? Qu'ils ont toujours cherché à enrichir leur commerce avec toutes sortes de comptoirs, de points d'escale autour de la Méditerranée? Qu'ils sont les inventeurs de l'alphabet, mais qu'ils ont finalement laissé très peu d'écrits? Sans doute ont-ils été détruits en raison de l'humidité de la côte libanaise? Jacques Pradel, vous recevez jusqu'à 11h un écrivain libanais, Alexandre Najar, auteur du livre Phénicia, publié chez Plon. Le livre vient de sortir.
Oui, alors évidemment, un livre, un roman historique, avec forcément des pages imaginées, des personnages et des dialogues que vous avez imaginés, mais le fond de l'histoire demeure évidemment fidèle à ce qu'a été l'histoire des Phéniciens, et aussi l'histoire de cette confrontation avec les armées d'Alexandre, et avec Alexandre le Grand lui-même sur son cheval Bucéphale, on en parlera, etc. On attend là au téléphone Éric Delpont qui a été le commissaire de l'exposition de la Méditerranée des Phéniciens, phéniciens de Tyr à Carthage qui s'est tenu à l'Institut du Monde Arabe du début du mois de novembre dernier au 20 avril, hein, donc qui s'est terminé il y a quelques jours. On n'arrive pas à le joindre pour l'instant, donc j'en profite là pour lui envoyer un petit message. Mais parlons tout de suite de cette exposition que peut-être des auditeurs qui nous écoutent ce matin ont également visité, donc on peut en parler pendant quelques instants ensemble. Vous y êtes allé, évidemment, vous y avez couru, j'imagine.
Bien sûr. Mais ce qui était fascinant pour moi, c'est que, ayant beaucoup lu sur les Phéniciens, d'avoir tout à coup découvert, enfin visualisé les choses que j'avais lues sans les avoir pu les imaginer devant moi.
Par exemple, fameux œufs d'autruche.
Oui, les œufs d'autruche, par exemple. C'était extraordinaire de voir comment les Phéniciens transformaient, faisaient de la peinture sur des œufs d'autruche et les transformaient en gobelets ou en vases. Ouais. Et c'est quelque chose de vraiment extraordinaire.
C'était une de leurs activités commerciales, puisqu'on dit que c'était un peuple de commerçants en bateau, et ils allaient quelque part se faire livrer les œufs d'autruche, ils les ramenaient dans leur port et les vendaient à leurs artisans, donc, qui ensuite faisaient ces objets qui sont absolument magnifiques.
Ouais. Et bon, il y a évidemment beaucoup d'objets qu'on connaît qui se trouvent au musée de Beyrouth, ou que j'ai pu voir en Sardaigne également, mais ce qui est fabuleux, c'est qu'ils ont pu réunir d'un nombre très important de musées, donc certains, pas forcément méditerranéens, tous ces objets-là, donc il y avait en même temps des objets donc artistiques, des bijoux, et également, mais aussi des stèles, des sarcophages également qui étaient sculptés. Et c'était, moi j'ai été vraiment très 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 heureux de voir cette exposition, et j'espère que ceux qui ont eu l'occasion de la découvrir se seront réconciliés avec les Phéniciens.
Oui, bon, il n'y avait pas de raison de ne pas se réconcilier
non,
avec les Phéniciens.
Le fait qu'il y ait cette méconnaissance quand même est une chose qui est c'est dommage.
Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas trouvé d'architecture phénicienne, mais on a trouvé beaucoup d'objets artisanaux, comme vous l'avez dit. On a trouvé des amphores aussi, des jarres qui se trouvaient donc dans cette exposition. Ça, c'est toujours les commerçants, hein, bien sûr, parce que le vin, pour qu'il voyage, il vaut mieux le mettre dans.
Puis les statuettes aussi, les statuettes d'Astarté, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Phéniciens, la religion phénicienne est extrêmement intéressante. Oui. Et l'une des raisons, d'ailleurs, pour le refus de Tyr de s'ouvrir à Alexandre le Grand, c'est que le conquérant macédonien voulait aller prier dans le temple de Melkarth, qui correspond pour lui à Héraclès. Oui. Et eux, les rois de Macédoine, se considérant comme des descendants d'Héraclès, donc pour lui, la logique voulait qu'il soit reçu et qu'il puisse pénétrer dans le temple. Évidemment, les Tyriens ont considéré cela comme un affront inacceptable et que c'était un sanctuaire qui allait être violé par ce conquérant. Et donc, ils ont refusé. Ouais. Ils ont même proposé, ils lui ont dit, bon, il y a un petit temple qui est sur... Parce que, en fait, Tyr, à l'époque, était une île. Et donc, ils lui ont dit, sur le continent, il y a un petit temple, si vous voulez, vous pouvez aller prier là-bas. Il leur a dit non, moi, j'ai décidé de venir dans le temple de Melkarth.
Et qui était ce fameux Melkarth?
Donc, c'était un roi, un dieu, qui était symbolisé avec une hache. Donc, il y a des images de représentation très, très étonnantes de lui, qui le montrent, donc, de ce roi, donc, ce dieu qui était avec Astarté. Donc, souvent, c'était ces dieux aller ensemble. Donc, il y avait Ashtar.
Ils allaient même par trois, souvent, je crois, chez les Phéniciens.
Voilà. Et donc, à Byblos, également, il y a une quantité non négligeable de dieux. Notamment, aussi Adonis, la légende d'Adonis qui existe aussi à Byblos. Donc, c'est vrai que la religion aussi phénicienne était une religion fascinante, surtout que la notion de résurrection était très présente. Et c'est une notion, évidemment, qu'on retrouve dans le christianisme. Ce soit Melkarth ou Adonis, ce sont deux personnages donc, qui ont ressuscité d'une certaine façon. Et on a retrouvé, d'ailleurs, dans l'exposition de Lima, on retrouve aussi des pièces de bijouterie, d'orfèvrerie, où on retrouve des motifs égyptiens qui suggère la résurrection également. Et j'ai trouvé que cette notion n'était pas suffisamment mise en avant parce que justement, on la retrouve bien plus tard, évidemment sous une forme beaucoup plus élaborée, mais c'était quand même quelque chose. Et donc, et là où aussi j'ai voulu insister dans le livre, c'est sur la superstition des uns et des autres. Et Alexandre le Grand, tout au long de ce siège donc de Tyr, va avoir recours à son devin. et aux augures, donc, qui, pour se donner du courage, parce qu'Alexandre le Grand croyait pouvoir occuper Tyr en 2 jours, et le siège va durer
6 mois ou plus.
7 mois. Ouais. Et là, chaque fois qu'il va sentir que le doute le saisit, il va avoir recours donc à son devin, et je suppose que le devin s'arrangeait toujours pour lui dire, pour lui donner de bonnes nouvelles.
Et qu'il allait
gagner. Et psychologiquement, ça soutenait beaucoup Alexandre, qui était assez superstitieux finalement, peut-être il tenait ça de sa mère Olympias, qui était connue pour être très superstitieuse. Et donc ce devin-là, toujours, et à l'inverse aussi, au sein donc de la ville assiégée, souvent aussi les Phéniciens avaient recours à des sortes de signes, de faisaient appel aux devins pour aussi essayer de lire dans l'avenir, pour savoir, donc, pour essayer de chasser leur angoisse en se disant comment va venir, donc quelle sera l'issue de ce siège.
Bien sûr,
et c'est tout à fait extraordinaire de voir comment, entre l'assiégeant et l'assiégé, il y a cette superstition qui règne finalement au sein des deux camps.
Les deux camps, les deux adversaires croient aux mêmes valeurs, quoi, finalement.
Et même quelquefois un même épisode est interprété différemment par le devin de l'un et le devin de l'autre, ce qui rend la vérité assez relative finalement.
Ouais. Et d'ailleurs, votre personnage de femme, donc Elissa, dont on va parler beaucoup plus là dans un petit instant, quand elle est jeune fille et quand elle veut voyager, elle veut aller à Carthage en fait. Il faut qu'elle embarque sur un bateau d'un de ses oncles, je crois, qui est navigateur, pour convaincre son père. Elle va voir un devin.
Oui, elle lui dit, père t'interroge, tu lui diras que tout va bien.
Dis-lui que les oracles sont favorables.
Voilà, il faut absolument que j'y aille.
Voilà, et c'est très intéressant ça, parce que même si c'est l'imagination du romancier, je pense que dans tous les systèmes de pensée, dans toutes les civilisations, il y a toujours des accommodements avec les lois, qu'elles soient divines ou qu'elles soient purement laïque. Hein.
Tout à fait.
Encore un mot sur la religion des Phéniciens, parce que il y a une scène, moi, qui m'a frappé dans votre livre. Alors, après, on remettra tout ça en perspective, on comprendra où ça intervient dans l'histoire. C'est Elissa, justement. Oui. Et elle pénètre dans ce fameux temple de Melkar. Oui. Et là, elle va assister à des rituels très...
De sacrifices
humains, où on sacrifie, disons-le, on sacrifie des enfants. Des enfants.
Et c'est là, d'ailleurs, un sujet de controverse aujourd'hui parmi les archéologues. Certains considèrent ces sacrifices, dont d'ailleurs parle très bien Flaubert dans Salammbô, il y a un épisode extraordinaire très saisissant d'un sacrifice d'enfant. Donc certains pensent effectivement que les Phéniciens, comme d'autres peuples de l'époque, sacrifiaient des enfants pour calmer le courroux des dieux. D'autres pensent, en revanche, que c'était probablement des enfants morts-nés, donc qui étaient morts à la naissance, et que donc c'était une sorte d'incinération. Moi, je pencherais pour la première.
Oui, vous décrivez la chose, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de trappe dans le temple, lorsqu'on retire le couvercle de cette trappe, il y a un feu, des flammes
qui
jettent
donc les enfants. Moi, je pencherais plutôt pour la première, la première version, parce que je crois que les traces qu'on a retrouvées, le nombre de d'urnes dans lesquelles se trouvent des ossements de petits-enfants, montre que ce ne pouvait pas être seulement des enfants mort-nés. D'ailleurs, au Liban se trouve aussi un temple qui est le temple d'Eshmoun, où les enfants souvent étaient... c'était un dieu qui était le guérisseur des enfants. Et donc, on a retrouvé aussi des statuettes d'enfants qui se trouvaient là-bas. Mais cela dit, donc pour résumer, je pense que il faut aujourd'hui raisonnablement admettre que, comme d'autres peuples de la région, il y avait aussi bien donc de la prostitution sacrée. La prostitution sacrée qui consistait à ce que des femmes se donnent aux étrangers ou aux gens pour alimenter les caisses du temple. Mais en même temps, il y avait cette pratique-là aussi des sacrifices humains.
Alors, Éric Delpont est en ligne, je suis ravi. Bonjour, Éric Delpont.
Bonjour.
Oui, bonjour. Alors, je rappelle, vous avez été le commissaire de l'exposition La Méditerranée des Phéniciens de Tyr à Carthage, là, qui vient de se terminer le 20 avril dernier, donc c'est il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure Alexandre Najar dire à quel point il avait apprécié cette expo.
Ah ben écoutez, j'en suis ravi. Bon, une petite précision, cette exposition a été dirigée par Madame Elisabeth Fontan du Musée du Louvre, qui était le commissaire scientifique, et moi j'étais son correspondant ici à l'Institut du Monde Arabe.
Alors, c'est une exposition qui a eu beaucoup de succès.
Nous avons dépassé les 160 000 visiteurs, ce qui est un chiffre très honorable pour ce genre d'exposition, oui. Surtout que les Phéniciens ne sont pas comme d'autres peuples de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement bien connus de la part du grand public.
Exactement, c'est ce que disait Alexandre Ajar, c'est pour ça qu'il a écrit ce livre d'ailleurs, et en fait vous êtes parti du même principe, quoi, c'est de faire mieux connaître l'étendue finalement de cette civilisation, quoi. Hein.
Oui, c'était, comme le disait l'affiche de l'exposition, c'était redonner un visage à cette civilisation d'ailleurs auquel l'Orient comme l'Occident d'ailleurs doivent beaucoup.
Oui. Alors quels étaient les objets qui vous ont paru être les plus appréciés du public dans cette exposition, parce que il y avait évidemment tout ce qui concerne l'artisanat, que ce soit de l'artisanat d'art, des bijoux, mais aussi l'artisanat lié au commerce, hein, je crois, les objets de la vie quotidienne, mais aussi les amphores, tout ce qui servait à ces commerçants à transporter leurs marchandises. Mais il y avait également, vous parliez aussi des religions, de la religion des Phéniciens.
Bah, c'est-à-dire que l'exposition était organisée en trois grandes séquences. On avait une première séquence qui était dédiée, bien entendu, à l'alphabet, puisque c'est un des apports majeurs que l'on doit aux Phéniciens. Et j'avoue que ça, c'est une chose qui intéresse toujours énormément le public. Et c'est vrai, ensuite, dans la deuxième étape de l'exposition, l'idée était de présenter quelle était la civilisation phénicienne dans son berceau géographique d'origine, c'est-à-dire la bande côtière du Liban actuel, avec un débordement sur la Syrie au nord et sur la Palestine au sud. Ouais. Et ensuite, nous avions considéré l'art phénicien, l'artisanat phénicien à travers des variations en Méditerranée.
Oui, c'est-à-dire à Malte, en Sicile, en Sardaigne, jusqu'en Espagne.
En Afrique du Nord, bien entendu, avec comme point d'orgue, évidemment, Carthage et sa civilisation particulière dans la Méditerranée occidentale.
Que deviennent les expositions quand elles se termine comme ça? Est-ce qu'elle va voyager, celle-là?
Celle-ci, non. Pour l'instant, il n'en est pas question. Bon, il est vrai que ce sont des manifestations qui sont assez compliquées à mettre en œuvre.
Oui, parce que les objets proviennent de nombreux musées, en fait.
Voilà, exactement. Là, nous présentions quelque chose comme 500 pièces issues de 75 collections différentes, réparties tant en France qu'en Europe, dans le monde arabe et même aux États-Unis. Donc, c'est vrai que quand on veut ensuite envisager l'itinérance d'un tel projet, ça demande une logistique très forte.
Je vous en prie.
Bien entendu que ce sont des projets qui sont évidemment coûteux à mettre en œuvre.
Mais oui, bien sûr. Encore une dernière question, Éric Delpont, à propos de ce qu'on met toujours justement en exergue quand on parle des Phéniciens, parce qu'ils sont mal connus, mais enfin ça au moins on le sait, c'est qu'ils ont apporté l'alphabet quand même au monde. Hein. Alors, est-ce qu'on peut être aussi catégorique, et qu'est-ce que vous montriez, vous, comme document, comme pièce pour confirmer cette information historique?
Alors, dans l'exposition, nous montrions des objets sur lesquels sont apparues ces premières inscriptions en alphabet linéaire, en alphabet phénicien linéaire, que ce soit sur des objets qui avaient, par exemple, été repris de l'Égypte ancienne, par exemple un buste d'Osorkon d'un pharaon que s'était réapproprié un roi de Byblos, dont le fils avait fait porter une inscription en phénicien dessus. Et ensuite, nous avions justement soit des stèles, soit des amphores inscrits, soit encore des pointes de flèches, ou encore des sceaux, bien entendu, qui portaient les noms de Phéniciens. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à d'autres civilisations de l'Antiquité, malheureusement, il y a peu de matériaux qui ont survécu.
Oui, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Ouais.
Notamment les papyrus. Qui aurait pu nous donner davantage de renseignements, à la fois d'un point de vue historique, mais aussi de l'imaginaire des Phéniciens, parce que finalement, on ne conserve rien de leur littérature. Ouais. Et les témoignages que nous en avons, ce sont ceux de leurs contemporains, qui évidemment ne sont pas toujours flatteurs au regard des Phéniciens, si on s'en rapporte, par exemple, à Hérodote.
Oui, on parlait tout à l'heure des navigateurs fripons. Alors maintenant, il reste, finalement, Alexandre Najar a pris la plume, hein. C'est pas un historien de l'époque, mais il va vous faire parvenir son roman Phénicien.
Avec plaisir.
Je vous remercie beaucoup, Éric Delpont.
Je vous en prie.
Merci, bonne matinée.
Merci, vous aussi, au revoir.
Au revoir. Oui, il fallait parler de cette expo, même s'il est terminé maintenant, non, mais... parce qu'elle était très importante, et peut-être qu'elle va être suivie d'autres, d'ailleurs.
Oui, moi je pense qu'en Italie, par exemple, il y a pas si longtemps aussi une très belle exposition. Je pense que les pays méditerranéens deviennent de plus en plus sensibles à cet art, donc je pense que à cette civilisation, donc je pense que dans les années à venir, nous aurons aussi de très belles expositions. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure la couverture donc ce livre représente ça s'appelle la Dame d'Elche, donc c'est une statue donc phénicienne qui se trouve à Madrid aujourd'hui, qui se trouve en Espagne. Donc ça prouve bien aussi cette richesse, cette diversité culturelle, et peut-être que finalement avec ces échanges culturels qui étaient dus aux Phéniciens, peut-être qu'on était dans une logique de diversité culturelle, d'échange culturel avant l'heure. Je veux dire cette ouverture d'esprit, cette ouverture sur le monde était quelque chose donc non seulement commercial mais aussi culturel. Et je pense aujourd'hui que peut-être, évidemment, les Phéniciens aujourd'hui leur civilisation est morte, ils ont été vaincus militairement, mais culturellement je pense que leur victoire aujourd'hui, c'est l'alphabet, c'est aussi ces objets extraordinaires qu'ils nous ont légués. Et on peut dire aujourd'hui que peut-être Alexandre le Grand a vaincu Tyr au bout de 7 mois de siège, mais n'a pas pu vaincre la civilisation phénicienne qui, on l'a vu justement dans cette exposition, continue, enfin survit admirablement.
Ouais, vous faites dire dans votre livre, vers la fin, à Elibal, médecin et précepteur, qui s'adresse à votre personnage, donc Elissa, dont on va parler maintenant, il lui dit « C'est la fin de Tyr, la fin de notre civilisation. Nous étions l'avant-garde, nous ne serons plus qu'un vague souvenir. » Voilà. Alors, Elissa, je vous demandais tout à l'heure si c'était compatible, crédible, donc l'idée de cette jeune femme aussi libre dans une région du monde où on ne pense pas d'abord à la liberté de la femme.
C'est ce qui est paradoxal, en fait, c'est que de voir aujourd'hui, quand on se plonge, enfin on se penche sur l'histoire antique, de voir le rôle extraordinaire joué par certaines femmes. Donc il y a Elissa, donc l'ancêtre, donc celle d'elle qui a hérité le nom. C'est la fondatrice de Carthage. Donc c'est la fondatrice de Carthage qui était au départ donc une femme. On voit aussi Zénobie, plein de personnages féminins qui dans l'Antiquité ont joué un rôle considérable. Et il est lamentable aujourd'hui de voir que 2000 ans après, de voir aussi que dans certains pays, pour ne pas généraliser, dans certains pays du monde arabe, on voit que la condition féminine n'est pas telle qu'elle devrait être. Et là, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas eu régression quelque part? Et pour moi, donc, Elissa aussi devient un symbole. Donc c'est un symbole de liberté. Elle a acquis sa liberté non seulement par l'ouverture, par un esprit ouvert, puisqu'elle va voyager, qu'elle va sillonner la Méditerranée, mais aussi par l'éducation. Et je pense aujourd'hui que cette idée de l'éducation, ce n'est pas par hasard que j'ai voulu que cette femme soit éduquée, parce que aujourd'hui, vous savez, il y a 40 millions de femmes arabes analphabètes. 40 millions. Et je pense que l'une des clés de la libération de la femme dans cette région,
passe
certainement par l'éducation. Il y a ensuite aussi la libération politique, puisque Elissa va refuser, elle va être l'une des premières à refuser de se soumettre comme Byblos et Sidon aux conquérants macédoniens. Donc il y a déjà cette attitude d'indépendance politique. Et puis aussi, peut-être sa seule prison finalement va être l'amour, puisqu'elle va tomber amoureuse d'un homme, enfin de Sidon. Mais finalement, bon, je ne vais pas dévoiler la fin du livre, mais on verra que cette prison n'est que relative finalement, et que l'amour n'est pas toujours une prison.
Alors justement, l'amour, effectivement, c'est une part importante de votre roman, parce que, on ne l'a pas dit tout à l'heure, l'une des, alors sinon des promesses, mais ce qui a peut-être fait basculer le père d'Elissa dans son acceptation que sa fille parte, quand même c'était dangereux à l'époque, de partir comme ça sur un bateau, parce qu'il y avait les fameux pirates dont on a parlé tout à l'heure, mais elle a dit, je vais revenir avec un mari.
Voilà.
Et alors, effectivement, elle va revenir avec un mari. En tout cas, elle va revenir en ayant rencontré l'amour.
Voilà.
Et de cela, on parle dans quelques instants avec vous. On va faire une nouvelle pause dans cette émission. Alexandre Najar, 01 42 32 15 15 pour toutes vos questions sur les Phéniciens, sur ce roman que vous avez peut-être lu, puisqu'il est paru depuis une toute petite, 10 jours, hein, je crois, à peu près. Si vous avez vu également l'exposition de l'Institut Monde Arabe, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un courriel par europe1.fr et on en parle tous ensemble.
Et nous retrouvons Jacques Pradel et son invité, l'écrivain libanais Alexandre Najjar, qui nous parle des Phéniciens.
Oui, alors là, on parle du roman maintenant, Phénicien, hein, puisqu'il fallait quand même remettre toute cette histoire dans son contexte. Et c'est vrai que c'est un défi, il y a un pari, hein, d'intéresser le lecteur aujourd'hui. Et je m'empresse de dire qu'il est parfaitement réussi, sinon je ne vous aurais pas invité à en parler. Mais il fallait quand même que, et c'est une occasion, ce livre aussi, de découvrir l'importance de cette civilisation. Alors maintenant, on est avec cette jeune femme à l'époque, Elissa, la future mère de Xénon, donc, qui raconte à Apollonios, son disciple, l'histoire de l'Odyssée de sa mère. Elle part en bateau, elle est toute jeune, enfin quoi, elle a 16-17 ans, hein, par là. Et puis elle va alors rencontrer, effectivement, ils vont à Carthage. Pourquoi voulait-elle découvrir Carthage, d'ailleurs?
Non, c'était les relations commerciales entre Tyr et Carthage étaient très importantes, et en réalité, les Tyriens sentaient que la prochaine cible d'Alexandre de Macédoine serait leur propre ville. Ouais. Et donc, ils voulaient demander à Carthage qu'elle les aide. Et c'est là où ils pensaient que la flotte de Carthage pourrait venir à leur rescousse et essayer de consolider leur position.
D'accord. Et alors, elle, au cours de ce voyage-là, évidemment, va rencontrer
Nazé, qui est donc un Sidonien qui se trouve donc aussi pour les besoins de son commerce à Carthage.
Carthage, d'ailleurs, c'est un homme qui passe quasiment sa vie en mer. Hein,
voilà, tout à fait, à vendre des
il se définit comme un nomade, lui.
Voilà, tout à fait. et donc, pour elle, ça va être un véritable coup de foudre entre les deux. Ouais. Mais malheureusement, bon, elle doit rentrer à Tyr, et lui, donc, doit continuer son commerce, mais il se marie quand même, et il lui promet qu'il reviendra, qu'il la retrouvera donc à Tyr, dès qu'il aura terminé donc les affaires pendantes à Carthage. Ouais. Et donc, c'est un amour très fort, très intense. Mais en même temps, il va, pendant tout la durée du siège, donc Elissa va attendre trois choses. D'abord, une victoire hypothétique. Ensuite, que Carthage vienne à la rescousse de Tyr. Et évidemment, que son mari débarque enfin et vienne au moins qu'il soit présent à ses côtés dans les moments difficiles qu'elle vit, surtout qu'elle est enceinte de lui et que cela également la responsabilise davantage puisque avec un enfant, elle se sent en même temps donc responsable de sa propre ville, mais aussi de l'enfant qu'elle porte en son sein. Donc, il y a le Xénon qui raconte l'histoire.
Voilà, ouais. Et avant de partir de Carthage, son mari, puisqu'elle s'est mariée là, lui offre un bijou.
Voilà, donc elle va porter sur elle, et donc qui symbolise la résurrection. C'est un des bijoux dont je vous parlais tout à l'heure, qui a pour thème cette notion très, très belle donc de résurrection. Ouais. Et donc elle va garder ce bijou sur elle, et qui va lui donner aussi cette volonté de se battre et de continuer donc pour lui, pour le retrouver, pour l'enfant qu'elle porte en elle. Elle va donc se battre jusqu'au bout et résister. Et pour elle, dans les moments, parce que bon, moi aussi, pendant la guerre, donc j'ai vécu la guerre du Liban, et j'ai beaucoup réfléchi, en fait, en me mettant dans la peau de ce personnage. Souvent, il m'a renvoyé à ma propre expérience pendant la guerre. Et je sais, par exemple, que pendant la guerre, il y avait cette notion d'attente. Et souvent, on attend, mais on attend quoi? On attend que la guerre s'achève. Évidemment, ce n'est pas avec une baguette magique qu'elle va s'achever. On attend la mort quand les bombardements s'intensifient. On se dit voilà, il n'y a plus qu'à attendre la mort. On attend un peu sans rien savoir. Enfin, à un moment donné, on se révolte plus. Et il y a cette notion d'attente qui fait qu'on est complètement dans une situation de d'angoisse.
Et donc, on reste.
Et en même temps, on reste parce qu'il y a bon l'énergie du désespoir, il y a cette volonté de survivre malgré tout. Et souvent, donc en parlant de ce personnage, elle m'a vraiment renvoyé au moment où je passais avec ma famille dans les abris où nous étions, où Beyrouth était bombardée par les Syriens, et on sentait vraiment que il y avait ces sentiments. Donc il y a eu une certaine aussi. Elissa n'est pas seulement un personnage de roman, mais je pense aussi qu'il y a une partie de moi en elle, en ce sens que cette expérience, cette souffrance qu'elle a vécue, c'est un peu cette souffrance que beaucoup de mes compatriotes ont vécue, mais aussi d'autres, ceux qui ont connu la guerre sous l'occupation en France, ceux qui ont connu d'autres épreuves de ce genre, savent enfin se reconnaîtront aussi dans ce personnage qui a en même temps qui est déchiré, donc qui doit surmonter la peur à tout instant aussi. La peur est quelque chose dont on a honte au début, ouais. Mais qu'on apprivoise par la suite,
mais qui laisse des traces,
Ouais. Mais en même temps, la peur est contagieuse, donc souvent aussi, moi je me souviens que pendant sous les bombardements, souvent mon père évitait de nous montrer qu'il avait peur parce qu'il avait peur de c'est le cas de le dire, il craignait de contaminer entre guillemets la famille, et que si le père avait peur, donc évidemment la mère allait avoir peur et les enfants, surtout ceux qui étaient tout petits, enfin paniqueraient aussi. Donc il y a toute cette psychologie, et aussi dans la psychologie d'Alexandre, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est de voir comment de l'arrogance que Alexandre a, puisqu'il vient de balayer Darius et l'armée perse. Mm-hmm. Donc au départ, il est sûr de lui-même. Il croit qu'il va écraser ce rocher de Tyr, cette île de Tyr, en 2 jours. Et puis petit à petit, lorsqu'il sent que les choses tardent, il va y avoir le doute et puis la fureur. Il se dit que ce n'est plus finalement l'objectif de Tyr qui est important pour lui, parce qu'à la limite, il y a beaucoup de ses conseillers, il lui dit mais contourne cette ville,
bien sûr,
et
voilà,
marche sur l'Égypte. Ouais, tu vas pas passer toute ta vie à combattre cette ville. Mais pour lui, ça devient une question de principe.
Il se dit d'orgueil.
Il se dit, si je renonce devant une petite ville, une petite cité comme cela, ça va se savoir, ça va démoraliser mes troupes. Ouais. Et puis, quand j'aurai d'autres objectifs encore plus difficiles, il y aura toujours ce précédent qu'on me rappellera et qu'on me dira, tu as renoncé là-bas, renonce ici. Et donc, il y a, moi, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la psychologie d'Alexandre le Grand, la façon dont, dans sa tête, les choses vont évoluer et comment lui-même va aussi être prisonnier du doute.
Ouais. Alors, dans un petit instant, justement, puisque c'est le principe que vous avez retenu dans son livre, c'est de nous faire vivre l'histoire par les yeux d'Elissa, par sa vie, par ses expériences, par ses peurs, par ses questions, etc. Mais aussi par la manière dont Alexandre et ceux qui se battent avec lui voient les choses et racontent les choses. Ben, dans un instant, on va dans le camp d'Alexandre le Grand. 01 42 32 15 15, c'est le standard qui est à votre disposition pour vos questions par téléphone. Et europe1.fr si vous êtes sur Internet, on lit également les courriels.
Jacques Pradel et son invité Alexandre Najar, nous parlons des Phéniciens aujourd'hui.
Alors on passe d'un Alexandre à l'autre, cette fois-ci, donc Alexandre le Grand qui est là, et dont vous décrivez à la fois les armées, les campements, et évidemment vous avez imaginé les dialogues, mais même sa stratégie militaire, on a l'impression qu'en fait cet homme-là, il est très en avance sur son temps.
Ce qui est certain, c'est que c'était un personnage très doué, qui avait un sens très poussé de la stratégie, qui savait s'entourer également, puisqu'il était entouré de plusieurs ingénieurs qui étaient extrêmement performants. Certains, d'ailleurs, avaient servi sous son père, donc Philippe de Macédoine. Et ce qui est étonnant dans ce siège de Tyr, c'est que ça va être tout le temps un duel entre deux intelligences. Mmh. Et là, chacun va redoubler donc de stratagèmes pour pouvoir conquérir, donc l'un pour conquérir l'île et l'autre pour la défendre. Je prends 3 exemples. Le premier, c'est que Alexandre, pour pouvoir, comme sa flotte n'était pas suffisamment puissante, il va imaginer de construire entre l'île et le continent
un pont,
donc une sorte de digue pour relier la digue au continent. Évidemment, les Phéniciens ne vont pas se laisser faire. Ils vont remplir un navire le bourrer d'explosifs et le projeter contre cette digue
pour la faire sauter
pour premier duel. Deuxième chose, les ingénieurs d'Alexandre vont imaginer de construire des tours très hautes parce que les murailles de la ville de Tyr étaient très élevées et donc ils vont pousser deux grandes tours en bois vers les murailles et ils vont les recouvrir de peaux de bête et avec des réservoirs d'eau qui vont en permanence les mouiller
à ce que les flèches incendiaires
ne puissent pas brûler les tours.
Ouais.
Première chose.
Et ça, ce sont des éléments historiques.
Ah oui, complètement. C'est ce qui est fascinant, c'est que dans cette bataille, dans ce siège, mais à chaque moment du siège, il y a chacun fait preuve d'ingéniosité et essaie donc de contourner l'autre. C'est un véritable jeu d'échecs entre deux intelligences. Ouais. La troisième, et ça, je trouvais ça fabuleux, c'est que Alexandre va commander des catapultes encore plus grandes que celles dont il disposait pour pouvoir détruire donc les murailles. Ouais. Et il va se rendre compte, après un bon bout de temps, que ces catapultes, enfin les boulets qu'il envoie, n'ont aucun impact sur les murailles. Ouais. Et donc il va demander pourquoi. Ouais. Et là, ils vont découvrir avec étonnement que les Phéniciens ont disposé sur les murailles des sortes de matelas géants rembourrés d'algues qui amortissent l'impact des boulets. Et ça, c'est hallucinant de voir. Surtout que ces gens-là, au départ, n'étaient pas préparés à des batailles. C'était pas des guerriers.
Oui, c'était pas des guerriers,
c'était des
comme
gens, finalement, des commerçants paisibles qui. Ouais. Et là, de voir comment ils ont. Encore dernier exemple, Alexandre de Gans va pour essayer de hisser hors de, enfin, il y avait des rochers qui avaient été disposés par les Phéniciens pour empêcher la flotte d'Alexandre, enfin, la petite flotte d'Alexandre de s'approcher. Côtes, ouais. Et donc, lui, il va imaginer d'enlever ces rochers avec des sortes de grues et de les catapulter loin, donc, de là, à bord de catapultes qui étaient sur ces navires. Mmh. Et donc, pour voir que le navire reste solidement ancré, donc, il avait amené de gros cordages pour que ces navires ne soient pas déstabilisés. Ouais. Et à la faveur de la nuit, les Phéniciens vont venir avec des petites barques, couper, sectionner ces cordages, de sorte que le lendemain, lorsque les navires vont commencer à catapulter, à hisser les rochers pour les catapulter au loin, ils vont se coucher tous sur le côté. Ouais. Et là, on se retrouve avec des navires complètement détruits par cela.
Ouais. Et vous avez trouvé ça où?
Il y avait beaucoup
de sources. Ça fait partie des choses qui ont été racontées par les historiens de l'époque,
en fait. Tout à fait. Ouais. Bon, certains ont quelquefois exagéré le courage d'Alexandre, l'ont un peu déifié, ou mais on en fait un mythe. Ouais. Mais j'ai essayé donc de montrer aussi un Alexandre le Grand humain aussi, et donc ne pas m'attarder sur ces récits un peu trop mythiques. Mmh. Mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir à décrire ce siège parce que en même temps, donc comme je l'ai dit, il me renvoyait à ma propre expérience, mais en même temps. J'étais très amusé de voir comment c'était vraiment chacun se réveillait. Moi, je suis sûr que il se réveillait chaque matin. Il se disait, mais comment je vais écraser ce caillou? Et il essayait d'imaginer. Donc, il convoquait son devin, ses stratèges, ses compagnons, tout ça. Ouais. Et il leur disait, mais trouvez-moi quelque chose.
Et les autres faisaient la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé?
Et ce qui est désolant, c'est que finalement, Alexandre ne va pouvoir vaincre Tyr qu'avec le concours de la flotte de Byblos et la flotte de Sidon.
Alors ça, on va en parler dans un petit instant. On va faire une petite parenthèse parce que nous avons, et on est ravis, on prononçait son nom tout à l'heure, Elisabeth Fontan au téléphone. C'était Éric Delpont qui nous rappelait que Elisabeth Fontan du musée du Louvre a été le commissaire scientifique de cette exposition de l'Institut du Monde Arabe. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour. Je suis tout à fait, je veux dire, surprise et ravie d'entendre parler des Phéniciens.
Ben oui.
Parce que je n'étais pas du tout au courant. Du coup, je suis restée à côté de mon téléphone au lieu d'aller faire les remballages à l'Institut du Monde Arabe.
Ah oui, parce que là, on démonte, évidemment.
On démonte, ça y est. Alors, là aussi, j'ai un petit regret, c'est que votre émission n'ait pas eu lieu pendant...
Ben voilà, c'est des questions des questions d'emploi du temps mutuel.
Voilà, pendant le cours de l'exposition. Ouais. Et aussi, j'apprends avec plaisir l'apparition du livre de M. Najar, qui donne un autre aspect du sujet, l'aspect plus anecdotique.
Ouais. Et alors ces Phéniciens, vous êtes une spécialiste donc de cette civilisation?
Voilà, oui, je travaille au département des antiquités orientales du musée du Louvre et je suis spécialiste, de la Phénicie. Ouais. Mais je tiens à dire que l'exposition a été conçue avec un concours de spécialistes du domaine, des spécialistes très très pointus, notamment des épigraphistes, spécialistes des langues, et Pierre Bordreuil, du Collège de France, a bien voulu nous apporter son concours.
Alors justement, je vous interromps sur ce point-là, parce qu'il y avait un certain nombre de questions qui sont arrivées tout à l'heure, et Alexandre Najar n'a pas la réponse, c'est pas un spécialiste de tous les aspects de la civilisation phénicienne, mais pas mal d'auditeurs nous ont appelés pour nous dire qu'est-ce qu'on sait de la langue que parlaient ces gens-là, et est-ce que il pourrait y avoir une filiation, par exemple, avec le Kabyle, puisqu'on disait aussi que cette civilisation s'est étendue non seulement sur les côtes actuelles du Liban, mais également sur toute l'Afrique du Nord, entre autres.
C'est ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition, que cette civilisation s'était beaucoup diffusée, parce que ce qu'on sait sur cette langue, c'est... On n'en sait pas absolument tout, mais une des questions, c'est de savoir justement si en Phénicie, qui n'était pas un pays unifié, tout le monde parlait exactement la même chose.
Absolument.
Et ça, c'est le vrai problème. Vous savez, la grande question, en fait, à laquelle on revient après des années d'études, c'est qui sont les Phéniciens?
Mais oui, parce que
très bien démontrait Madame Françoise Briquel-Chatonnet, qui est historienne, qui a aussi participé au catalogue. Et, si vous voulez, on arrive tous à la question. qui sont les Phéniciens. Ouais.
D'où viennent-ils
Ça, je crois qu'il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Ce sont des populations locales.
Oui, d'accord, mais on parle d'un peuple navigateur, quoi, de peuple navigateur.
Oui, oui, ce sont des gens qui tout de suite sont lancés sur les mers, sans doute à la recherche des matières premières. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont effectivement effectué un brassage d'idées, de critères artistiques, et dans toute la Méditerranée.
Ouais.
Et en même temps, on les connaît pas beaucoup, parce qu'ils ont inventé l'alphabet, mais ils ont laissé très peu de texte.
Ben voilà, ouais.
C'était écrit sur des matériaux périssables.
Ouais, ouais.
Et on le connaît, effectivement, on les connaît par des sources extérieures.
Ouais. Et pour la question, alors, sur une filiation possible avec d'autres langues, notamment le kabyle, mais on peut peut-être...
Alors là, j'avoue mon ignorance, et dans un coin comme ça, je laisse la réponse aux spécialistes, hein, parce que je ne suis pas épigraphiste.
D'accord, mais c'est ce que m'avait dit aussi Alexandre Najar, à qui je vais poser la question hors micro. Une dernière question, Elisabeth Fontan. Cette histoire que citait tout à l'heure Alexandre Najar en disant « Je laisse là le soin aux spécialistes de trancher », l'idée que les Phéniciens auraient pu pousser leurs explorations jusqu'à l'Amérique du Nord.
Non, on dit qu'on a trouvé des inscriptions phéniciennes au Brésil.
Au Brésil, voilà.
Oui.
L'Amérique du Sud, pardonnez-moi.
Ça semble peu raisonnable.
Oui.
Même s'ils ont été des grands navigateurs qui ont fait donc la circumnavigation de l'Afrique, sans doute. Ça semble encore du domaine du fantasme.
Ouais, parce qu'on est quand même à une période où je crois qu'on n'a pas inventé vraiment le gouvernail, hein, c'est ça ?
Non, ça existait, mais c'était quand même des expéditions très longues et qu'on connaissait pas. On n'avait pas des connaissances, les cartes, les plans n'existaient
pas.
Ouais.
Mais ils avaient déjà bonne connaissance puisqu'ils arrivaient à faire des navigations jusqu'à la fin du deuxième millénaire. Ils étaient arrivés sur la côte occidentale de l'Espagne.
Voilà, en se basant sur les étoiles, je crois.
Sur les étoiles. Sur
l'analyse des vents aussi.
Et de ce fait, ils ne pouvaient naviguer que durant la belle saison en Méditerranée, avec des saisons d'hivernage.
D'accord. Donc on ne leur prête pas trop d'exploits potentiels. Sur l'histoire du Brésil, c'est pourquoi on a trouvé des inscriptions...
Pseudo-phénicienne.
Ah, vous pensez que ça pourrait être même carrément
une supercherie.
Une supercherie, oui.
Ouais. Je ne les ai pas vues. Hein, et une fois de plus, je ne suis pas épigraphiste. Mais de l'avis des spécialistes, ça semble curieux.
Suspect. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous de faire connaître les phéniciens sur votre antenne.
Voilà, il faut dire merci, surtout Alexandre Najar, qui va vous envoyer son livre également.
D'ailleurs. Je serais ravi. Voilà. Merci beaucoup.
De toute façon, je tiens aussi à vous féliciter pour la qualité de cette exposition et pour les travaux que vous faites, que je suis avec beaucoup d'attention.
Merci beaucoup.
Merci. Bonne matinée. Au revoir. On va se retrouver dans un petit instant. 01 42 32 15 15 pour le téléphone. Europe1.fr pour l'internet.
Et nous retrouvons Jacques Pradel et son invité Alexandre Najar, que nous recevons pour son livre Phénicia, qui vient de sortir chez Plon.
Et alors, c'est vrai que le siège de Tyr et la manière dont s'est déroulée la bataille tient une grande place dans votre roman. On y vient dans quelques secondes, mais de l'intérieur de la ville, puisque c'est le propos que vous avez suivi tout au long de votre livre, de nous faire vivre les événements, soit par les yeux d'Alexandre et de ceux qui se battent avec lui, soit par les yeux des Phéniciens. Youssef, qui nous appelle de Grenoble, qui est d'origine libanaise, nous dit « J'aimerais bien savoir l'origine de la perfidie phénicienne. Vous parliez des fripons, des marins fripons, etc. Qui a dit ça des Phéniciens ?
Donc justement, on retrouve ça dans plusieurs écrits. C'était une sorte de cliché qui a été véhiculé comme ça. Bon, c'est vrai que déjà dans le commerce, la notion de commerce souvent sous-entend cela. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les Grecs aussi ont joué un rôle dans le fait de ternir un peu l'image des Phéniciens. Et que ce cliché leur a longtemps collé à la peau.
Ouais. Et alors, autre question de Janine, que vous appelle de Paris. La reine Didon a-t-elle vraiment existé ? Si oui, à quelle époque ? Et Didon...
Donc c'est Elissa.
C'est
la fondatrice de Carthage.
De Carthage,
et donc, vous savez, dans les histoires de l'époque, comme l'histoire, par exemple, de Cadmos aussi, qui aurait diffusé l'alphabet en Grèce et ailleurs, souvent, la réalité se confond avec la légende. Et donc, Elissa, bon, ce qui est certain, c'est que les Phéniciens sont les fondateurs de Carthage. Mmh. Le personnage d'Elissa a très probablement existé, mais il est vrai aussi qu'autour de ce personnage-là, il y a aussi beaucoup de légendes qui ont été tissées. Et souvent, dans les récits de l'époque, les choses se confondent beaucoup. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que la parenté aujourd'hui entre Carthage et Tyr, par exemple, est une chose complètement avérée et indiscutable. À tel point que souvent des délégations de Carthage venaient pour participer aux festivités que faisaient les Tyriens, notamment lorsqu'ils rendaient hommage donc au dieu Melkarth. Oui. Donc ils venaient participer à ces festivités. Et donc au cours du siège d'Alexandre, et les historiens le démontrent, il y avait donc une délégation qui était venue donc justement participer à ces festivités et qui vont se retrouver, cette délégation va se retrouver en quelque sorte aussi prisonnière du siège.
Alors on se retrouve donc dans Tyr assiégé cette fois-ci avec les assiégés. Comment ont-ils vécu? Est-ce qu'ils ont cru à un moment est-ce que cet espoir dont vous parliez tout à l'heure a vraiment été nourri tout au long des 6 mois du siège? Parce que, disons-le tout de suite, Carthage n'est jamais venu à leur secours.
Non, Carthage n'est jamais venu parce que Carthage aussi était menacé, se sentait pas, avait besoin de sa flotte aussi. Ouais. Mais cela dit, pour le siège, c'est vrai que aussi dans la psychologie des Phéniciens, au départ, ils sont évidemment pleins d'espoir. Ils se disent, voilà, nous allons tenir tête à Alexandre. Nous avons notre solidarité, va nous permettre de nous battre jusqu'au bout. Et là, ce qui va encore leur donner encore plus d'espoir, c'est que les éléments, la nature, va s'allier à eux. Et le vent, d'ailleurs ceux qui connaissent Tyr savent que souvent il y a un vent très violent qui se lève, bien que ce soit une ville très belle, qui a un cachet très 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 beau, mais en même temps il y a ce vent que les anciens appelaient l'Africus.
L'Africus, oui.
Donc qui ne permet pas donc aux navires d'accoster facilement. Ouais. Et là, chaque fois qu'Alexandre le Grand, donc il y a un moment par exemple où Alexandre le Grand, les ingénieurs d'Alexandre le Grand vont lui dire, voilà, nous allons accoupler deux navires ensemble et mettre une sorte de plateforme entre les deux navires pour disposer dessus des catapultes et permettre donc des béliers pour permettre en fait une avancée plus efficace. Et là, le vent va se lever et tous ces navires-là vont se fracasser les uns contre les autres
parce qu'ils
vont
être complètement... Signe des dieux, alors.
Voilà. Et donc immédiatement, donc ce qui va encore donc de leur donner encore plus de courage, c'est qu'ils vont sentir que le vent, donc les éléments, tout cela est de leur côté, à leur côté. Et cela va se répéter au moins deux trois fois durant le siège où le vent va venir au secours des Phéniciens. Mais évidemment, le vent ne suffisait pas et que de l'autre côté, il y avait une armée considérable. Et justement aussi, il y a eu ces trahisons donc des villes de Byblos et de Sidon
qui ne sont pas venus à leur secours.
Qui avaient donc des flottes très importantes et qui vont accepter de prêter main forte à Alexandre. Donc des Phéniciens qui vont aider le Macédonien à prendre une ville phénicienne. Ouais. Et c'est là où c'est quelque chose véritablement de malheureux de voir que cette solidarité qui a existé entre ces villes autrefois, qu'ils avaient même une sorte de conseil qu'ils avaient fondé à Tripoli, où toutes ces villes-là discutaient de leurs intérêts communs, etc. On va se voir comment elles ont accepté donc de renforcer la flotte d'Alexandre.
Et comment finalement Alexandre finit par pénétrer dans la ville?
Donc il va décider donc de l'attaquer de tous les côtés. Donc, puisque la digue, la jetée qu'il avait construite a pu relier donc le continent à l'île, il y a une armée considérable qui va attaquer par là avec les tours donc en bois, qui sortent de beffroi, qui vont attaquer. Donc il y a une brèche qui va être ouverte dans la muraille. Et puis tout autour, il y avait Tyr à l'époque disposait de deux ports, l'un qui s'appelait le port sidonien et un autre le port égyptien. Ouais. Et ces deux ports, donc où se trouvait la flotte donc phénicienne de Tyr, vont être bloqués par la flotte ennemie, donc par la flotte d'Alexandre, qui était renforcée par, comme je l'ai dit, par les flottes de Byblos et de Sidon. Et donc ils vont être prisonniers, donc leurs navires vont être incapables de sortir, donc ils vont être pris au piège. Et en même temps, de l'autre côté aussi, il y a la flotte qui va faire diversion. Donc c'est vraiment, ils sont cernés de tous les côtés, et c'est là où l'armée va entrer. Et
Et c'est un carnage, quoi. Voilà. Hein, c'est un carnage. Alors, on le vit par les émotions et les yeux de Elissa. Elle est enceinte. Elle n'a pas encore accouché. Mmh. Alors ça, c'est dans le roman. Évidemment, elle va se réfugier dans ce fameux temple de Melkar.
Et ça, c'est historique, en fait, que la plupart des survivants, parce qu'il y en a eu très peu, parce qu'en fait, Alexandre, c'est là où on reconnaît plus la clémence d'Alexandre qu'on avait vue au lendemain de la bataille d'Issos où il s'était occupé de la famille de Darius comme c'était la sienne propre. Ouais. Là, on va plus reconnaître cette clémence-là puisque il va y avoir. Ouais. Et moi, je pense que c'est par dépit parce qu'en la rancœur, en fait, le fait d'avoir piétiné pendant
aussi longtemps,
et là, il va se déchaîner sur eux et il va crucifier. Ouais. Imaginez qu'il va crucifier
Ça, c'est historique aussi.
Ah oui, c'est complètement historique.
Il a crucifié des
milliers de Tyriens sur la plage de Tyr. Ouais. Et c'est là où on se dit combien cet homme devait être fou de rage pour réagir ainsi, alors que par ailleurs, il n'a jamais réagi ainsi.
Ouais. Alors, comme dans les plus beaux romans, le mari d'Elissa va arriver, quand même.
Voilà.
Bah, oui, il va arriver. Mais il la cherche partout et il va la retrouver dans ce temple de Melkar. Ouais. Elle va mettre au monde son enfant.
Ouais. Qui sera donc ce philosophe Zénon, qui est le père du stoïcisme.
Ouais. Et la boucle, si j'ose dire, est bouclée. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans votre histoire. On a gardé les grandes lignes de force. Hein, bien sûr, il faut ensuite savourer l'histoire puisque, disons-le encore une fois, c'est un roman. Dernière question, Alexandre Najar, il nous reste deux petites minutes avant de nous quitter. Votre livre est paru donc il y a une petite dizaine de jours à Paris et simultanément à Beyrouth. Vous avez déjà des échos de la manière dont ce livre a été reçu là-bas par vos confrères, puisque vous écrivez aussi dans un journal littéraire.
Non, en général, il a été très bien reçu parce que, évidemment, vivant au Liban, donc sur la terre de Phénicie, donc ça passionne aussi les Libanais. Mm-hmm. Et aussi, je pense, ils ont été sensibles au fait que je n'ai pas fait preuve de chauvinisme. Et c'est important. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu prendre parti pour les Phéniciens de façon... Mm-hmm. C'est vrai que je leur rends hommage, mais en même temps, je montre aussi leur travers. J'ai voulu vraiment être objectif et raconter en tant que romancier, mais sans vraiment faire émettre des opinions qui pouvaient être considérées comme une apologie de la Phénicie dans une tendance politique, je dis.
Sur le fond de l'histoire, vos lecteurs au Liban font des rapprochements avec la situation actuelle.
Moi, je pense aussi qu'il y a eu au moins deux enseignements que le lecteur aussi peut tirer si on veut faire une analogie avec le Liban. La première, c'est que le peuple qui vit en Phénicie, donc qui est aujourd'hui le Liban, a toujours été un peuple épris de liberté. On l'a vu en 2005 lorsqu'il y a eu cette fameuse révolution du cèdre. Ouais. Le Liban, les gens qui vivent sur cette terre ont toujours eu ce sens, cet amour de la liberté. L'autre enseignement, et qui est plus malheureux, c'est que les dissensions qui déchirent souvent les Libanais ne sont peut-être que le prolongement de ces luttes intestines qui déchiraient jadis les Phéniciens.
Ouais.
Et on voit bien, on l'a dit, comment les Byblos et Sidon se sont alliés à Alexandre contre Tyr. Et ça aussi, c'est un enseignement qui est malheureux.
En dehors de tout ça, Tyr reste une très belle ville. Ça n'est plus une île.
Non, ce n'est plus une île.
On peut la visiter au cours d'un passage au Liban.
Tout à fait.
Vous pouvez emporter le livre d'Alexandre Najar avec vous pendant le voyage. Merci infiniment.
Merci beaucoup d'avoir
passé votre matinée avec nous. Ce roman est tout à fait passionnant. Il s'intitule Phénicia, donc, et vient de paraître aux éditions Plomb. Merci Alexandre Najar.
Merci.
Et on se retrouve demain matin, Jacques Pradel.
Mais absolument.
À demain. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.